Bonjour à tous et à toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom des organisateurs. Je m'appelle Esteban Munoz et je collabore régulièrement avec le comité Mémoire et Justice. Ce soir, j'ai le plaisir de me charger de la modération. Pour commencer, la radio alternative Libre Radio a la gentillesse d'organiser un streaming en direct de cette conférence. L'enregistrement sera disponible sur leur site prochainement si vous souhaitez réécouter la conférence. Je cède rapidement maintenant la parole à Diana Quiero, vice-présidente du comité Mémoire et Justice, ancienne enseignante de l'unité d'espagnol de la faculté de traduction et d'interprétation de l'UNIGE. Elle va exposer en guise d'introduction les buts de la conférence de ce soir.
Mémoire, justice. Devoir de mémoire, soif de justice. Les deux notions maîtresses de notre comité, mémoire et justice. Elles sont le fil conducteur du titre de cette conférence publique. Je pense que ces deux notions nous parlent beaucoup. Devoir de mémoire. Phrase si souvent répétée et si souvent vidée de son sens. Nous espérons lui rendre ses lettres de noblesse. Nous voudrions qu'à la fin de cette conférence, vous partiez avec une mémoire collective, vivante, pas morte, pas tournée vers le passé, agissante, créatrice, portée vers l'avenir. Nous voudrions également que cette soif de justice ne se tarisse pas, bien au contraire. Le comité Mémoire et Justice a été fondé par des ex-prisonniers politiques chiliens il y a déjà plus de 25 ans. Mais bien sûr, ces réfugiés politiques chiliens avaient commencé leur travail de mémoire, de justice, bien avant, de leur arrivée à Genève. Alors, je suis fière de représenter ce comité aujourd'hui. Je me disais que je ne voulais pas vous offenser et je voudrais parler brièvement. Alors, je vous fais confiance. Je pense sincèrement que vous tous et toutes allez saisir l'essence de notre conférence. Alors, je ne veux pas vous expliquer quels sont nos buts. Hein? Vous allez les découvrir. Je vous fais confiance. Par contre, je voudrais conclure avec deux sujets, des événements qui nous tiennent à cœur. L'un, c'est bien sûr le peuple palestinien. Samedi dernier, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Genève pour exprimer leur colère, leur indignation, leur révolte face au silence assourdissant de la plupart de nos autorités politiques et de la plupart de nos médias. Nous sommes solidaires avec toutes ces personnes qui sont descendues, qui descendent et qui descendront encore pour dire haut et fort, vive le peuple palestinien. Nous sommes solidaires de ces mots. Ensuite, un deuxième événement que je voudrais rappeler, en lien aussi avec nos sujets de ce soir, c'est la disparition depuis 6 mois au Chili d'une femme de 14 ans. Julia Chouni, malheureusement, en ce moment, nous pouvons dire que c'est quelqu'un qui peut-être fait partie des disparitions forcées. Nous pensons à ce sujet, nous pensons à tous ces Chiliens et Chiliennes qui se mobilisent depuis 6 mois pour demander vérité et justice. Je vous remercie.
Nous allons maintenant initier la première partie de la soirée avec des interventions officielles. Cette soirée a été organisée grâce au soutien essentiel de Latino Lab, représenté aujourd'hui par Aline Helg et Valeria Wagner, à qui nous adressons tous nos remerciements. Aline Helg est professeure honoraire au département d'histoire générale de l'UNIJ et notamment animatrice persévérante du mural Alexis Jacquard, un espace d'exposition qui est situé dans le hall principal du NIMAC. Nous l'invitons à la tribune pour intervenir au nom de Latinolab.
Bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, je voudrais remercier le comité Mémoire et Justice et aussi Cecilia Toledo et Esteban Munoz de nous avoir invités, d'abord d'avoir organisé cette conférence absolument cruciale à une période où plusieurs dirigeants politiques veulent en fait effacer des ponts entiers de l'histoire des crimes d'État. Et également vous remercier pour la confiance et pour nous accompagner depuis très longtemps dans nos projets. Et donc, je vais dire quelques mots du Latino Lab sur Alexei Jacquard et sur le mural qui porte son nom. C'est la mission qu'on m'a confiée. Alors, le Latino Lab est un réseau, en fait, d'une trentaine de chercheuses et chercheurs qui travaillent sur et autour de l'Amérique latine depuis Genève et qui sont soit indépendants, soit à l'université, soit à la Haute École de Travail Social ou au Graduate Institute ou HED. Et notre but principal est de développer les connaissances et les échanges autour de l'Amérique latine. Et pour cela, nous offrons une grande palette d'activités que vous trouverez sur notre site Internet. Et ça, c'est très facile de trouver. Vous tapez simplement Latinolab Unij ou Genève et vous tomberez dessus. Et là, vous trouverez qu'on organise des événements gratuits sur des sujets cruciaux, aussi que nous soutenons et collaborons à des événements comme celui de ce soir. Et nous organisons aussi des séminaires gratuits, toujours publics, dans lesquels des membres de notre groupe ou d'autres personnes peuvent présenter leurs recherches. Et puis, chaque année, nous collaborons avec le Festival Filmar en América Latina. Et cette année, vous pouvez déjà noter que ce sera le 18 novembre et qu'on présentera à la fois films, conférences et débats autour du film cubain Guantanamera. Et pour être informé de nos activités, on va faire circuler une petite feuille où vous pouvez vous enregistrer comme ami du lab et vous serez informé de tout ce que nous faisons. Je ferai circuler cette feuille si vous n'êtes pas déjà inscrit. Et donc, quelques mots sur Alexei Jacquard et le mural qui porte son nom. Donc, ce mural, il reflète en fait presque un demi-siècle de mobilisation collective autour d'un cas concret de disparition forcée, celle d'Alexei Jacquard, un étudiant suisse et chilien de l'Université de Genève, disparu à Buenos Aires en 1977. Et cette mobilisation, je tiens à le souligner, depuis 48 ans, c'est avant tout la mobilisation de sa femme, Paulina Veloso. C'est grâce à elle que l'on a fini par apprendre dans les années 2000, donc il a disparu en 1977, qu'Alexei a été l'une des milliers de victimes de l'opération Condor. Il a été arrêté à Buenos Aires à son arrivée, transporté dans le coffre d'une voiture de la police chilienne jusqu'à Santiago du Chili, où il a été emprisonné, torturé, puis assassiné dans un lieu secret d'extermination des membres du Parti communiste chilien. Et ce n'est qu'en 2018 que ces bourreaux ont été condamnés, mais son corps n'a toujours pas été retrouvé. Et à l'université, la mobilisation, elle a commencé en fait déjà en 1977 avec ses camarades d'études, à une époque où l'on commençait à peine à mettre un nom sur le crime d'État de la disparition forcée. En fait, le maire de la place de Mai, ont fait leur première ronde à Buenos Aires juste 2 semaines avant la disparition d'Alexeï. Notre mobilisation a été vaine, mais elle a alerté l'opinion publique suisse sur les dictatures du cône sud. Et puis après, l'arrestation en fait du dictateur Pinochet en 1998 à Londres pour génocide, terrorisme et torture, des étudiants de l'université obtiennent qu'un auditoire de Niemeyer, alors en construction, soit nommé auditoire des droits de l'homme en hommage à Alexeï Jacquard. Et enfin, en 2017, 40 ans après la disparition d'Alexeï, le collectif Nouvelle Génération Chili, bien représenté ici, n'est-ce pas, fait renommer l'auditoire Alexeï Jacquard, droits de l'homme. Mais ce n'est qu'en 2020 que sa proposition, donc au comité, à ce collectif Nouvelle Génération, d'ajouter devant l'auditoire un dispositif sur Alexeï et la disparition forcée, commence à prendre forme grâce à une collaboration très, très intense. Et sans entrer dans les détails, nous finissons par inaugurer ce mural en 2022. C'est donc ce mural tout rouge que vous avez peut-être vu à l'entrée du Niemeyer. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à vous arrêter et à le visiter à la sortie. Donc, deux mots là-dessus. Nous avons utilisé les parois entre les deux portes de l'auditoire pour informer sur Alexeï Jacquard, sur sa vie et sa disparition, sur l'opération Condor, ainsi que sur la disparition forcée en droit international et ses impacts sociaux et les mobilisations qu'elle suscite parmi les proches et dans la société civile. Mais pour nous, il faut que ce mural vive et se mobilise. Là, on retrouve aussi les mots de la précédente oratrice, il faut que ça continue de vivre. Et grâce à un fonds de l'université, nous allons doter cet été sa paroi de gauche d'un écran horizontal qui diffusera des expositions audiovisuelles pour informer et sensibiliser le public. Et un historien de l'art, membre du Latino Lab, je ne sais pas s'il est là, est en train de préparer une première exposition pour cet automne autour du rôle de la photographie dans la dénonciation et la mémorialisation de la disparition forcée en Colombie et au Sri Lanka. Et donc, si vous êtes sur la liste des amis du Latino Lab, vous serez invité à l'inauguration de cette exposition. Et pour les expositions suivantes, nous avons fondé une association à but non lucratif pour pouvoir solliciter des fonds publics, pas facile, et qui sait, intéresser un ou deux généreux donateurs. Donc, merci de votre attention et je vous souhaite une très, très intéressante soirée avec des participants renommés dont certains nous connaissons déjà et c'est vraiment un honneur de les revoir ici. Merci.
Nous voulons également remercier le réseau RENAD, qui est une ONG basée à Madrid, qui co-organise cet événement et qui collabore avec nous dans son volet des Nations Unies. Pour maintenant passer à une nouvelle intervention, 1162 personnes ne sont toujours pas retrouvées par les autorités chiliennes 35 ans après la fin de la dictature civico-militaire de Pinochet. Cet effectif représente près de 80% des victimes de disparition forcée au Chili durant cette période. Un des objectifs de cette soirée est de faire connaître le Plan national de recherche des disparus au Chili, qui est la dernière initiative de l'État chilien pour répondre à la demande des familles qui cherchent toujours leurs proches disparus durant la dictature. Nous cédons donc la parole à María José González Quirós, troisième secrétaire de la mission du Chili auprès de l'ONU à Genève et membre de l'équipe Droits humains. Elle prendra la parole en espagnol et son intervention sera lue en français par notre amie Daniela Ferreira.
Muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la misión permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra, quiero agradecer sinceramente esta invitación Y felicitar, por supuesto, a los organizadores y organizadoras por abrir un espacio de memoria, verdad y justicia que sigue siendo profundamente necesario.
Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de la mission permanente du Chili auprès des Nations Unies à Genève, je vous remercie sincèrement pour cette invitation et je félicite les organisateurs d'avoir ouvert un espace de mémoire, de vérité et de justice qui reste profondément nécessaire.
Como ustedes saben, en agosto de 2023, a 50 años del golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric lanzó el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Se trata de una política pública inédita para Chile, permanente y estructural, que busca dar respuesta a una deuda histórica con las víctimas de desaparición forzada y sus familias.
En août 2023, 50 ans après le coup d'État, le président Gabriel Boric a lancé le Plan national de recherche de vérité et de justice. Il s'agit d'une politique publique inédite, permanente et structurelle qui vise à répondre à une dette historique envers les victimes de disparitions forcées et leurs familles.
Por primera vez, el Estado de Chile asume de manera formal y sostenida su responsabilidad en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas cuyos restos aún no han sido encontrados. El plan no depende de la voluntad política de un gobierno en particular, sino que se incorpora al presupuesto nacional como una obligación continua del Estado.
Por la primera vez, el Estado chileno asume de manera formal y soutenue sa responsabilité dans la recherche des personnes détenues disparues et exécutées pour des raisons politiques dont les restes n'ont pas encore été retrouvés. Le plan national ne dépend pas de la volonté politique d'un gouvernement particulier, mais il est intégré au budget national en tant qu'obligation continue de l'État.
L'objectif général de ce plan est de contribuer à l'esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y o muerte y el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada y ejecución política, cuyos restos aún no han sido encontrados.
L'objectif général du plan est de contribuer à la clarification des circonstances de la disparition et ou de la mort et du sort final des victimes des disparitions forcées et d'exécution politique dont les restes n'ont pas encore été retrouvés.
A su vez, se han determinado o definido tres objetivos específicos. El primero es implementar una política estatal permanente de búsqueda. El segundo, sistematizar y analizar la información disponible a nivel estatal y de la sociedad. Y el tercero, garantizar el acceso a la información, la participación de las familias y el enfoque de derechos humanos en todo el proceso.
Trois objectifs spécifiques ont également été définis. Le premier est de mettre en œuvre une politique étatique permanente de recherche. Le deuxième, de systématiser et analyser les informations disponibles au niveau de l'État et de la société civile. Et le troisième, de garantir l'accès à l'information, la participation des familles et l'approche fondée sur les droits humains tout au long du processus.
Este enfoque responde a una realidad aún pendiente. Entre 1973 y 1990, más de 1.400 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Chile, y a la fecha 1.162 casos siguen sin resolverse. Estas cifras no son solo estadísticas, son historias de vida interrumpidas, familias marcadas por el silencio y una sociedad que aún busca la verdad.
Cette approche répond à une réalité qui reste d'actualité. Entre 1973 et 1990, plus de 1400 personnes ont été victimes de disparitions forcées au Chili. À ce jour, 1162 cas restent non résolus. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des récits de vie brisés, des familles marquées par le silence et une société qui continue de rechercher la vérité.
El plan se caracteriza en parte porque su elaboración fue mediante un proceso participativo amplio liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que contó con más de 60 encuentros en 29 comunas de todo el país. Participaron más de 775 personas, entre ellas familiares de víctimas, exprisioneros políticos, organizaciones de derechos humanos, académicos y representantes de sitios de memoria. Esta participación no fue decorativa. Puso a las familias en el centro del proceso y permitió recoger el conocimiento acumulado por la sociedad civil durante décadas de lucha.
Le plan a été élaboré dans le cadre d'un vaste processus participatif mené par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, avec plus de 60 réunions dans 29 communes du pays. Plus de 775 personnes ont participé, parmi lesquels des parents proches des victimes, d'anciens prisonniers politiques, des organisations de défense des droits humains, des universitaires et des représentants des lieux de mémoire. Cette participation n'était pas purement symbolique, elle a placé les familles au centre du processus et a permis de recueillir les connaissances accumulées par la société civile au cours des décennies de lutte.
Bueno, pero ¿cómo funciona el plan? El plan está dirigido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como mencioné anteriormente, a través de su programa de derechos humanos, y su implementación se articula mediante tres pilares institucionales. El primero es el Comité de Monitoreo y Participación, que asesora y representa a familias, organizaciones y academia, incidiendo en el desarrollo del plan. El segundo es la Mesa Técnica de Archivos Públicos, que esta identifica, reúne y sistematiza información documental dispersa en el Estado. Un dato importante es que ya ha recuperado más de 36.000 documentos relevantes. Y el tercero es el Comité Operativo Interinstitucional, que reúne a ministerios clave y al Poder Judicial, permitiendo superar trabas operativas y coordinar acciones.
¿Cómo funciona el plan? Il est dirigé par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à travers son programme des droits humains. Sa mise en œuvre s'articule autour de trois piliers institutionnels. Le premier, le comité de suivi et de participation qui conseille et représente les familles, les organisations et le monde académique et influence le développement du plan. Le deuxième, c'est la table technique des archives publiques qui identifie, rassemble et systématise les informations documentaires dispersées dans l'État. Elle a déjà récupéré plus de 36 000 documents pertinents. Et le troisième, c'est le comité opérationnel interinstitutionnel qui réunit les ministères clés et le pouvoir judiciaire permettant de surmonter les obstacles opérationnels et de coordonner les actions.
Además, se ha desarrollado una plataforma digital con inteligencia artificial diseñada para facilitar el procesamiento y cruce de grandes volúmenes de información histórica.
En outre, la plateforme numérique dotée d'une intelligence artificielle a été développée afin de faciliter le traitement et le recoupement de grands volumes d'informations historiques.
Esto es un poco específico, pero el plan establece criterios de priorización para las búsquedas en terreno, como la calidad y cantidad de antecedentes disponibles, la relevancia judicial o testimonial y la factibilidad técnica de intervención. A la fecha se han definido 47 sitios de interés prioritario, de los cuales 17 ya cuentan con investigaciones activas, y para el año pasado, en 2024, se proyectó intervenir al menos 13 sitios adicionales.
C'est un peu technique, mais le plan établit des critères de priorité pour les recherches sur le terrain, tels que la qualité et la quantité des informations disponibles, la pertinence judiciaire ou testimoniale et la faisabilité technique de l'intervention. À ce jour, 47 sites d'intérêt prioritaire ont été identifiés, dont 17 font l'objet d'enquêtes actives. Pour 2024, il était prévu d'intervenir sur au moins 13 sites supplémentaires.
Ustedes se pueden estar preguntando en qué se traducen estas acciones. Bueno, se traducen en metas concretas y entre ellas tenemos la identificación de al menos 100 nuevos antecedentes documentales durante 2025, la creación de perfiles de búsqueda individuales por cada caso pendiente y un dato muy importante que es la activación de nuevas causas judiciales. Desde su lanzamiento se han presentado más de 60 acciones judiciales nuevas. Y el cuarto, la cuarta meta concreta es la progresiva intervención de sitios vinculados a casos emblemáticos, como por ejemplo el Cerro Chen, que en este año, en 2025, comenzaron las pesquisas para la búsqueda de lo que se estima serían al menos 6 cuerpos de detenidos desaparecidos.
Ces actions se traduisent par des objectifs concrets, parmi lesquels l'identification d'au moins 100 nouveaux documents d'archives au cours de l'année 2025. La création de profils de recherche individuels pour chaque affaire en suspens, l'ouverture de nouvelles procédures judiciaires. Depuis son lancement, plus de 60 nouvelles actions en justice ont été engagées. Enfin, l'intervention progressive sur des sites liés à des cas emblématiques comme le Cerro Chena, par exemple.
Pero estos avances no son solo técnicos, son también profundamente simbólicos. Reflejan la voluntad del Estado de pasar de la omisión a la acción. De acompañar a las familias en una búsqueda que por décadas debieron sostener solas.
Ces progrès ne sont pas seulement techniques, ils sont également profondément symboliques. Ils reflètent la volonté de l'État de passer de l'omission à l'action. D'accompagner les familles dans une recherche qu'elles ont dû mener seules pendant des décennies.
Chile está convencido de que enfrentar el pasado con verdad y dignidad es condición para construir una sociedad justa. La desaparición forzada es un crimen que revictimiza todos los días. Por eso la búsqueda no puede esperar.
Le Chili est convaincu que faire face au passé avec vérité et dignité est une condition nécessaire pour construire une société juste. La disparition forcée est un crime qui revictimise chaque jour. C'est pourquoi la recherche ne peut attendre.
Asimismo, este esfuerzo se alinea con los compromisos internacionales asumidos por el país, en especial con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue ratificada por Chile en 2009. En este sentido, el Plan Nacional de Búsqueda puede considerarse una buena práctica estatal en justicia transicional, digna de ser observada por otros países.
Cet effort s'inscrit également dans le cadre des engagements internationaux pris par le pays, en particulier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ratifiée par le Chili en 2009. En ce sens, le Plan national de recherche peut être considéré comme une bonne pratique étatique en matière de justice transitionnelle, digne d'être observée par d'autres pays.
Sabemos que la desaparición forzada no es un fenómeno del pasado, sino una herida abierta. Por ello, fortalecer la cooperación internacional y promover el derecho a la verdad como principio universal es más necesario que nunca.
Nous savons que la disparition forcée n'est pas un phénomène du passé, mais une plaie ouverte dans de nombreuses régions du monde. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de renforcer la coopération internationale et de promouvoir le droit à la vérité en tant que principe universel.
Quiero concluir reiterando que el Plan Nacional de Búsqueda no es un gesto simbólico ni un homenaje tardío. Es una política pública concreta, con recursos, acciones y objetivos medibles. Es una respuesta del Estado ante un crimen que no prescribe y una herramienta para que el nunca más no sea solo una consigna, sino una realidad. Muchas gracias.
Je conclurai en réaffirmant que le Plan National de Recherche n'est ni un geste symbolique ni un hommage tardif. Il s'agit d'une politique publique concrète, dotée de ressources, d'actions et d'objectifs mesurables. C'est une réponse de l'État à un crime qui n'est pas prescrit et un outil pour que l'expression « plus jamais » ne soit pas seulement un slogan, mais une réalité. Merci beaucoup.
Dans le cadre de notre soutien au Plan national de recherche, nous avons interpellé le gouvernement chilien et espérons pouvoir, depuis la communauté extérieure, pouvoir soutenir le Plan national de recherche et également montrer qu'il y a une communauté qui est engagée encore pour les droits humains et qui va suivre autant que nécessaire tous ces efforts pour l'application des droits humains au Chili. Nous tenons aussi à créer des contacts avec les autorités suisses. C'est pourquoi nous avons invité Fabian Molina, député Zurico au Parlement fédéral, mais qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous pour des raisons d'agenda. Il a eu la gentillesse de nous adresser un message vidéo pour saluer la tenue de cette conférence. Fabien Molina est originaire du Chili. Il est membre de la commission de politique extérieure du Conseil national pour le compte du groupe socialiste. Nous allons entendre son message vidéo. Il a tenu évidemment à s'exprimer en espagnol et donc nous avons sous-titré la vidéo en français.
Estimadas y estimados participantes, soy Fabián Molina, hijo de un diputado chileno y consejero de las Embajadas Socialistas. Es un honor celebrarles en esta importante conferencia sobre la desaparición forzada, impunidad y memoria. Este tema me toca profundamente y valoro enormemente los esfuerzos por la verdad y la justicia en Chile. Lamento no poder estar presente en persona, pero me uno a ustedes con mucho respeto y admiración desde la distancia. Agradezco al Comité de Memoria de Justicia, a la TIMA y a la Red de la HH por esa iniciativa que una la sociedad civil, el mundo académico y político en un objetivo común, mantener viva la memoria y apoyar la nacional de Chile. Gracias por su compromiso en conseguir construyendo puentes de solidaridad.
Nous passons maintenant à la deuxième partie de la conférence. Nous avons le plaisir de recevoir Gabriela Citroni, professeur agrégé en droit international et droits de l'homme à l'Université de Milano Bicocca et présidente du groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires. Elle va nous exposer la situation des disparitions forcées en Amérique latine et les enjeux actuels du mandat du groupe de travail des Nations Unies qu'elle préside. Merci.
Merci. Et bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le comité Mémoire et Justice, Latino Lab, la Red Nationale des Droits Humains, en tant qu'organisateur, pour leur invitation à exprimer mon soutien à ce, et exprimer mon soutien à cet événement important et mon émotion de revenir à l'ONU et de commémorer la disparition forcée d'Alexei Jacquard il y a 48 ans. Ainsi que la lutte pour la vérité, la mémoire et la justice de sa famille et de la société civile, ce que soit au Chili, en Argentine, en Suisse et ailleurs. Le cas d'Alexei est emblématique des milliers d'autres cas dans tout le monde et nous montre la nécessité de préserver la mémoire collective et de continuer à chercher des réponses, y compris par l'adoption de nouvelles lois politique et plan de recherche des personnes disparues. Le cas de Colonia Dignidad, comme nous l'entendrons, est tout aussi symbolique et significatif, et il nous offre l'opportunité de tirer des leçons des horreurs vécues, des obstacles rencontrés par les familles des disparus, des torturés et des maltraités, ainsi que de la résilience et de la résistance obstinée afin d'établir la vérité, d'obtenir justice et de construire des fondations solides afin que ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais. Avant d'aborder le sujet qui m'a été assigné, à savoir la notion juridique de disparition forcée et la réalité en Amérique latine, je voudrais m'excuser pour la lecture de mon discours et pour mon français, que je crains mélangerai l'italien et l'espagnol. Et donc, j'espère cependant qu'il sera compréhensible. Et s'il ne c'est pas le cas, je vous prie de m'arrêter et de me le signaler directement. Tout d'abord, il convient de souligner qu'étant la définition juridique de la disparition forcée, que la création du groupe de travail des Nations Unies que j'ai l'honneur de présider, sont dues en grande partie à la lutte des familles des personnes disparues et des associations de la société civile en Amérique latine, et en particulier au Chili et en Argentine. Ce sont les premières, en premier lieu, les familles des personnes disparues qui ont souligné la nécessité de définir la notion juridique de la disparition forcée des personnes. Car lorsqu'elles tentaient de s'adresser aux autorités pour retrouver leurs proches, elles surtaient souvent à des obstacles bureaucratiques et juridiques. Le phénomène de la disparition forcée en tant que tel n'était pas reconnu. Et en fait, il défie la logique, puisque normalement, les gens naissent, vivent et meurent. Mais ils ne disparaissent pas tout simplement. Par conséquent, lorsqu'elles tentaient de dénoncer les faits, outre les injurieuses et insultantes inférences, elle a dû partir avec son petit ami, cette fois qu'on est le navire. Il a dû faire quelque chose, pour algo será. Elle s'obtint un mur de questions qui mettait en évidence l'existence d'une faille juridique. Vous dites qu'ils ont enlevé. Quelqu'un a demandé une rançon. Vous parlez de torture, mais avez-vous des preuves? Meurtre. Quelqu'un a trouvé le corps. La nécessité de définir ce qu'on entend par disparition forcée s'était donc imposée. Si dans un premier temps, en 1980, les familles ont obtenu la création de groupes de travail contre les disparitions forcées ou involontaires pour servir de canal humanitaire entre les familles et les gouvernements afin de déterminer les sortes de personnes disparues, il restait encore à définir la notion juridique de disparition forcée en tant que telle. La première définition à niveau international a été adoptée en 1992. Dans le préambule de la Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, il est écrit « Des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur volonté ou privées de toute autre manière de leur liberté par des agents du gouvernement, de quelque service ou à quelque niveau que ce soit, par des groupes organisés ou par des particuliers qui agissent au nom du gouvernement ou avec son appui direct ou indirect, son autorisation ou son assentiment, et qui refuse ensuite de révéler le sort réservé à ces personnes ou l'endroit où elles se trouvent ou d'admettre qu'elles sont privées de liberté, les soustrayant ainsi à la protection de la loi. Trois éléments constitutifs et cumulatifs sont donc nécessaires. Premièrement, la privation de liberté de la victime contre sa volonté. Deuxièmement, l'implication directe ou indirecte de l'État. Et enfin, la négation d'une privation de liberté a eu lieu ou la dissimulation du sort de la personne disparue. La conséquence inhérente est que la personne en question est alors placée en dehors de la protection de la loi. La deuxième définition internationalement acceptée de disparition forcée se trouve dans l'article 2e de la Convention interaméricaine contre la disparition forcée de 1994, qui dispose l'acte de priver une ou plusieurs personnes de leur liberté, de quelque manière que ce soit, perpétrée par des agents de l'État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec l'autorisation, le soutien, l'acquiescement de l'État, suivi d'une absence d'information ou d'un refus de reconnaître sa privation de liberté ou de donner des informations sur le lieu où se trouve cette personne, empêchant aussi ce recours aux voies des droits et aux garanties procédurales applicables. La troisième définition se trouve dans un traité de droit pénal international, à savoir le statut de Rome de 1998 de la Cour pénale internationale, qui inclut dans son article 7 les disparitions forcées lorsque celles-ci sont commises dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée à l'encontre de toute population civile. Ils sont inscrits parmi les crimes contre l'humanité. La définition donnée est la suivante. Les cas où des personnes sont arrêtées, détenues, enlevées par un État ou une organisation politique, ou avec l'autorisation, l'appui, l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé, ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Comme on peut le constater, cette définition introduit des éléments différents de ceux mentionnés précédemment, ce qui s'explique en partie par la nature différente de l'instrument juridique, qui dans les deux premiers cas porte sur le droit international des droits de l'homme en visant à établir la responsabilité internationale de l'État, tandis que le dernier cas, le statut, vise à établir la responsabilité internationale de l'individu. Tout d'abord, il a mentionné que, outre les agents de l'État ou les personnes ou les groupes de personnes qui agissent avec la tolérance de l'État, des acteurs non étatiques, dénommés ici organisations politiques, peuvent également commettre des disparitions forcées. Deuxièmement, il est exigeant que les responsables agissent avec l'intention de soustraire la victime à la protection de la loi pendant une période prolongée, expression particulièrement malheureuse, car vague et opaque. Comme nous le verrons, ces deux aspects, les rôles des acteurs non étatiques et un éventuel élément de durée des disparitions forcées, sont particulièrement débattus dans l'actualité, y compris dans le cas de l'Amérique latine. Il y a une quatrième définition aujourd'hui de disparition forcée en droit international qui se trouve dans l'article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2007, qui a été mentionnée avant. Et la définition revient à la première définition que j'ai lue, donc je ne vais pas lire encore. En résumé, on peut dire qu'aujourd'hui, la notion juridique de disparition forcée a été clairement définie au niveau international, et que certains États, dont beaucoup en Amérique latine, ont codifié ces crimes dans leur droit pénal. Certains éléments font toutefois l'objet de discussions ou de débats, comme la possibilité que des acteurs non étatiques commettent des disparitions forcées ou l'existence présumée d'un élément de durée du crime, ainsi que certaines nouvelles déclinations de ce phénomène, souvent dans un contexte transnational qui nécessite une réflexion plus approfondie et pose de nouvelles questions. Une analyse de la situation actuelle en Amérique latine nous permet de bien illustrer ces éléments dans leur complexité. Il est presque impossible de résumer en un mot la situation des disparitions forcées en Amérique latine, car celle-ci est pour de nombreuses raisons contradictoires. Alors que des progrès significatifs ont été réalisés dans certains domaines, d'autres domaines ont régressé, ce qui était impensable il y a quelques années. Une première erreur, encore assez courante, doit être réfutée. S'il est vrai que dans de nombreux pays de l'Amérique latine, la disparition forcée ne sont pas commises actuellement, ou en tout cas ne sont pas commises à grande échelle, il est tout à fait erroné d'associer les disparitions forcées uniquement au passé et aux dictatures militaires. Dans au moins 3 États d'Amérique latine, il existe actuellement une pratique généralisée ou systématique de disparition forcée, même si elle présente des caractéristiques distinctes, à savoir Nicaragua, Venezuela et Mexique. Dans l'actualité, les personnes les plus souvent touchées par les disparitions forcées sont les opposants politiques, les personnes participant à des manifestations, les journalistes, les écologistes et les défenseurs des droits humains, souvent engagés dans la défense de la terre, des ressources naturelles et de l'environnement. Les plus souvent, les personnes concernées sont des jeunes ou des adolescentes, prétendument associées à des gangs criminels des jeunes, les dénommés maras, ou des cartels de la drogue. Dans ce contexte, en parallèle des disparitions forcées traditionnelles, les disparitions forcées dites de courte durée sont particulièrement fréquentes, en période d'instabilité politique ou en situation d'urgence publique. Des personnes sont soumises à des disparitions forcées pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, avant de réapparaître, parfois vivant, parfois mort, généralement après avoir été soumises à des actes de torture. En raison de l'existence de la définition de disparition forcée dans le statut de Rome, mentionné ci-dessous, qui exige l'intention de soustraire la personne à la protection de la loi pendant une période prolongée, on s'est demandé si l'on pouvait parler de disparitions forcées lorsqu'elles sont de courte durée. En 2024, le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées involontaires, ainsi que le comité des Nations Unies des disparitions forcées, ont adopté une déclaration commune portant sur les disparitions forcées dites de courte durée. Ils ont indiqué que pour constituer une disparition forcée, la privation de liberté doit être suivie du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou des lieux où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi, indépendamment de la durée de cette privation de liberté ou de cette dissimulation. Cette pratique est désormais extrêmement courante dans toute l'Amérique latine, aussi bien dans le contexte de détention à la suite des manifestations que dans d'autres domaines particulièrement délicats, à savoir les disparitions forcées dans le contexte de migration. S'il est vrai que toutes les personnes disparues dans le contexte de la migration ne sont pas victimes de disparitions forcées, dans de nombreux cas, tous les éléments constitutifs de crimes sont présents. Ce phénomène pose des défis nouveaux et particulièrement complexes, en raison de sa nature transnationale et la lutte des membres de la famille pour la vérité et la justice sort à des obstacles particulièrement difficiles. De nouveau, toute l'Amérique latine est touchée par cette pratique, et en particulier le passage du Darién entre la Colombie et Panama et les pays de l'Amérique centrale et le Mexique. Je ne peux m'empêcher de mentionner un phénomène, encore une fois avec des implications transnationales, qui a émergé avec force au cours de deux derniers mois, à savoir les disparitions forcées dans le cadre du programme de déportation massive mis en œuvre par les États-Unis. De nombreuses personnes, plusieurs de nationalité vénézuélienne, qui ont été expulsées des États-Unis, sont désormais présumées se trouver au Salvador. Même si leurs familles ne sont pas sûres de l'endroit où elles se trouvent, et ces personnes n'ont pas accès à un avocat ou à un représentant. Une autre phénomène dont on ne connaît que la surface, qui a souvent une dimension transnationale et qui a touché plusieurs pays de l'Amérique latine, est celui des enfants victimes de disparitions forcées ou nés de mères disparues, qui sont ensuite adoptés, souvent illégalement. Encore, une autre question qui s'est posée dans plusieurs pays de l'Amérique latine, notamment au Mexique, en Équateur, au Salvador, en Colombie et au Pérou, est de savoir si les disparitions forcées peuvent être attribuées à des acteurs non étatiques, en particulier les cartels de la drogue, les groupes du crime organisé. Il n'est fait aucun doute que lorsque de tels groupes agissent avec la tolérance, l'acquiescement et le soutien de l'État, on peut parler de disparitions forcées. Cette hypothèse ne peut être écartée tant que les autorités de l'État n'auront pas mené une enquête effective à ce sujet. Un élément malheureusement commun dans toute l'Amérique latine, tant dans les disparitions forcées qui ont commencé il y a de nombreuses années que dans les plus récentes, demeure l'impunité. S'il est vrai que le crime de disparition forcée est particulièrement complexe, cela ne sera justifié le nombre restreint des personnes responsables qui ont été identifiées, jugées et emprisonnées. Malgré quelques cas emblématiques, souvent liés à des disparitions forcées commises dans le cadre de l'opération Condor, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation particulièrement préoccupante. Au mieux, on peut parler d'une impasse, souvent due à la lenteur structurelle des processus ou aux difficultés posées par le passage du temps, et malheureusement souvent à la mort de proches, de disparus et des témoins. Dans le pire des cas, surtout en Amérique du Sud, et avec quelques exceptions comme le Chili, l'Uruguay et la Colombie, on assiste à une régression violente. Ceux qui en avaient été condamnés sont libérés de prison ou réhabilités socialement. On les appelle parfois « héros incompris ». Des lois d'amnistie et des prescriptions sont adoptées encore une fois. Et des obstacles juridiques qui semblaient désormais définitivement dépassés sont de nouveau d'actualité. Dans ce contexte, les cas les plus frappants sont ceux de l'Argentine et du Pérou. Souvent, les revers de la justice s'accompagnent d'attaques de plus en plus affrontées contre la mémoire. Les monuments et les mémoriaux font l'objet d'attaques et de dégradations. Et le financement des associations de la société civile, des centres d'études et des centres de préservation de la mémoire reste réduit. De plus en plus, souvent, nous assistons à des campagnes de stigmatisation et de diffamation à l'encontre des proches des personnes disparues, qui contestent que ces personnes aient réellement disparu. Enfin, un domaine dans lequel des progrès ont été réalisés, au moins sur les plans législatifs et institutionnels, et celui de la recherche des personnes disparues. Dans certains pays, dont le Pérou, la Colombie, le Mexique et le Salvador, des institutions spécialisées ont été créées pour élucider la sorte des personnes disparues. Dans d'autres pays, comme le Chili, comme on le venait d'écouter, un plan national de recherche a été adopté après de nombreuses années. Bien que ces progrès soient certainement les bienvenus, de nombreuses lacunes et de nombreux défis subsistent, notamment le fait que souvent ces mécanismes ou politiques sont adoptés sans impliquer les familles des personnes disparues, on a vu que ce n'est pas le cas au Chili, ou sans permettre une participation significative. Le manque de ressources humaines, financières et techniques adéquates afin de mener à bien une tâche souvent particulièrement difficile et parfois gigantesque, même face aux complexités du domaine médico-légal. Dans d'autres cas, comme celui de Pérou, on tente, face aux faibles résultats obtenus au cours des années et à l'absence d'une volonté politique solide, d'hâter la fermeture des unités de recherche et de tourner la page. Dans d'autres cas, notamment le Mexique, la participation à la recherche des proches des disparus a coûté la vie à des mères, des sœurs et des filles. En fait, dans la plupart des cas, celles qui se consacrent à la recherche sont des femmes, las buscadoras, qui doivent souvent faire face à des formes de violence de genre. Si ma prononciation de français vous a permis de me comprendre, de mes conclusions sur la disparition forcée en Amérique latine émerge un portrait caractérisé par des ondes d'ombre et des lumières. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire face à de nouveaux défis, reconnaître, protéger et renforcer les progrès réalisés et s'opposer fermement aux tentatives révisionnistes et aux reculs juridiques. Aujourd'hui, comme il y a 44 ans, le refus de l'oubli de Julio Cortázar et son appel sincère restent valables. Il disait, il faut maintenir dans un présent obstiné, avec toute son sang et son ignominie, ce que déjà on cherche à faire entrer dans le pays commun de l'oubli. Il faut continuer à considérer comme vivantes ce qui peut-être ne le sont plus. Mais nous avons l'obligation de les réclamer, un par un, jusqu'à que la réponse apporte finalement la vérité que l'on cherche aujourd'hui à éluder. Merci de votre attention.
Cette intervention très importante pour nous nous permet de rentrer dans le vif du sujet en présentant la question des disparitions forcées en Amérique latine dans différents contextes et aussi dans ces différentes formes du passé et du présent. Nous pouvons maintenant rentrer dans le cas chilien avec un sujet en particulier, celui de Colonia Dignidad, qui est une communauté sectaire dont les membres vivaient pratiquement en autarcie complète, sans contact avec le monde extérieur. Elle a été fondée dans une région centrale du Chili en 1961 par Paul Schaeffer, ex-caporal de la Wehrmacht lors de la Seconde Guerre mondiale. Durant la dictature, ensuite, Colonia Dignidad a été utilisée comme un centre d'enlèvement, de torture, de disparition et d'extermination de prisonniers politiques. Aujourd'hui, les anciens prisonniers politiques et des représentants des familles militent pour en faire un lieu de mémoire. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux représentantes de l'Association pour la mémoire et les droits humains Colonia Dignidad, Margarita Romero, qui en est la présidente, et Paola Peebles Vlaovic, qui en est membre depuis récemment. Donc, j'invite Paola Peebles Vlaovic pour venir faire la présentation. Et Margarita Romero sera ensuite à disposition aussi pour le tour des questions.
Bonsoir à toutes et tous. Avec Margarita Romero, c'est un plaisir pour nous de vous saluer et de vous remercier pour votre participation à cette activité importante pour notre association. Nous voudrions aussi remercier les associations qui ont rendu cette rencontre possible, Comité Mémoire et Justice, Latino Lab et la Red Nationale des Droits Humains, ainsi que la présence et la présentation de Madame Gabriela Citroni, présidente du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires des Nations Unies. Nous avons travaillé un exposé en trois parties que je vais lire aussi. Je m'en excuse parce que c'est beaucoup de lecture et c'est plus agréable d'entendre parler quelqu'un de façon spontanée. Mais c'est une histoire longue et complexe et remplie de détails et qui pour moi est particulièrement difficile à dire aussi parce que c'est l'histoire notamment de mon père qui vient de décéder. Voilà. Je commencerai par... Est-ce que les micros, c'est OK d'abord pour le son? Je commencerai par expliquer le contexte et ensuite un historique pour revenir notamment sur les origines de Colonia Dignidad et tracer un portrait de cette organisation. Ensuite, je parlerai de notre association pour la mémoire et les droits humains Colonia Dignidad pour expliquer les objectifs et notre travail. Et enfin, je parlerai de l'actualité brûlante du dossier, aujourd'hui encore, et je donnerai notre analyse des enjeux pour le Chili et l'Allemagne, et les enjeux pour le respect des droits humains. 35 ans après la fin de la dictature militaire au Chili, la tâche d'établir la vérité sur les violations des droits humains survenues entre 1973 et 1990, de rendre justice en sanctionnant les responsables de ces crimes, d'accorder la réparation aux victimes et enfin de mettre en œuvre des garanties de non-répétition et de mémoire historique n'a été accomplie que de manière précaire, partielle et inachevée. Au-delà de la tristesse et du caractère insoutenable de cette situation, tant pour les victimes que leurs familles, pour la société chilienne dans son ensemble, le cas de Colonia Dignidad est particulièrement douloureux. Bien que le rapport RETI ait officiellement établi en 1991 que Colonia Dignidad avait été un lieu où la DINA, les services secrets de la dictature jusqu'en 1977, en collaboration avec des colons allemands, a systématiquement enlevé, torturé, assassiné et fait disparaître des personnes, Colonia Dignidad a constitué jusqu'en 2005 un état dans l'état, une véritable enclave fermée au public et inaccessible aux autorités chiliennes. Cela a permis de maintenir l'impunité. Après l'arrestation de Paul Schaeffer, le fondateur donc de Colonia Dignidad, en mars 2005, certains colons ont décidé de quitter le lieu. Cependant, une partie importante d'entre eux y réside encore aujourd'hui. Ils gèrent les vastes domaines forestiers et agricoles de la colonia, transformés en parc récréatif. Offrant ce parc récréatif offre des services touristiques. Il y a un hôtel, un restaurant. On peut s'y promener, on peut s'y baigner et on y organise des événements comme des mariages et jusqu'il y a peu, la Oktoberfest, la fête de la bière. Les États chiliens et allemands ont soutenu économiquement les entreprises de Colonia Dignidad tout en les conseillant, sans pour autant assumer la responsabilité de rendre visibles auprès de la société les atrocités commises contre les droits humains en ce lieu. Cette situation, ajoutée à l'absence de vérité et de justice, constitue une nouvelle agression envers les victimes des crimes contre l'humanité perpétrés à Colonia Dignidad. Parallèlement, de nouveaux éléments horrifiants sur le rôle joué par Colonia Dignidad dans l'appareil répressif de la DINA et de la dictature chilienne ont récemment émergé. On dispose aujourd'hui de données permettant d'affirmer que plus de 100 personnes y ont été assassinées, leurs corps enterrés, puis exhumés illégalement. Leurs restes ont été brûlés et leurs cendres jetées à la rivière pour les faire définitivement disparaître, tandis que des centaines de détenus transférés de différentes régions du pays y ont subi des tortures de la part d'agents chiliens et de colons allemands. Ainsi, Colonia Dignidad se distingue parmi les plus importants centres de séquestration, de torture et d'extermination de la dictature au Chili, le principal lieu de torture et de mort qui, à ce jour, ne bénéficie d'aucune mesure de mémoire historique. Seule une petite plaque de cette taille-ci, une petite plaque mentionne une petite plaque commémorative sur un des bâtiments où des crimes ont été commis, signale le lieu comme monument national Et c'est le seul aussi à demeurer habité, le seul lieu d'extermination à demeurer habité et à fonctionner comme site touristique et de divertissement. Ces faits sont encore plus graves si l'on considère que la Colonia Dignidad a été fondée par un groupe de citoyens allemands. La République fédérale d'Allemagne, qui entre 1973 et 1990 comptait des gouvernements démocratiques, n'est jamais intervenue pour mettre fin aux graves violations des droits humains dans cette enclave. Malgré la connaissance de l'ensemble des crimes commis au sein de Colonia Dignidad, nous estimons que les deux États, soit par action, soit par omission, partage la responsabilité d'éclaircir pleinement les graves violations des droits humains perpétrées à Colonia Dignidad, d'assurer une réparation intégrale aux victimes et de développer un site de mémoire. Ces mesures doivent être mises en œuvre en incluant à chaque étape les organisations de victimes et de défenseurs des droits humains, conformément aux standards internationaux relatifs à la participation des victimes au processus de décision et à la mise en œuvre des mesures de réparation, et en respectant aussi les processus locaux de mémorialisation développés dans notre pays, au Chili et dans le Cône Sud, où les associations et les collectifs de la société civile, pas uniquement les victimes, ont conduit ou participé activement à cette démarche, en collaboration avec de nombreux acteurs et les institutions de l'État. Je vais brosser un bref historique de l'existence de Colonia Dignidad. Vous l'avez déjà entendu, c'est en 1961 que Paul Schäfer, ex-brancardier de l'armée nazie, converti en prédicateur religieux, et environ 300 de ses disciples arrivent depuis la République fédérale d'Allemagne pour s'installer au pied des Andes, dans la petite ville, près de la petite ville de Parral, 350 km au sud de Santiago. Ils ont choisi d'émigrer car Paul Schäfer faisait l'objet d'une plainte pour abus sexuels sur mineurs et d'un mandat d'arrêt en Allemagne. À leur arrivée, le groupe présente aux autorités chiliennes des lettres de recommandation du ministre allemand de la Famille et de l'ambassadeur chilien à Bonn. Ils acquièrent de vastes terrains aux alentours de Parral et chassent les ouvriers paysans de leur lieu de vie. Dans les années qui suivent, ils construisent des maisons, un hôpital, un aérodrome, mais aussi de grandes cavités souterraines et des tunnels, et se lancent dans l'exploitation agricole et forestière du domaine. Le travail non rémunéré des colons, des habitants de la colonie, s'effectue du lever au coucher du soleil, et tous les habitants, y compris les enfants et les jeunes, sont contraints de participer. Assez rapidement, tout autour du terrain, ils érigent un cerclage de barbelés, comme ceux des camps de concentration. Il s'agit d'une part d'empêcher les colons de s'évader, et d'autre part d'empêcher l'excès de personnes indésirables sur le territoire de Colonia Dignidad. Au fil des ans, ils mettent en place un système de surveillance de plus en plus sophistiqué, avec des caméras, des microphones cachés, des capteurs de mouvement. Les caméras étaient dissimulées dans des arbres naturels ou des troncs artificiels, ou encore dans des pierres découpées, recollées, dont les câbles reliaient un centre de contrôle. Paul Schäfer sépare les familles en isolant les hommes, les femmes et les enfants, et interdit toute activité sexuelle. Il disait considéré comme un péché. Garçons et filles ont tous été traités, entre guillemets, de manière extrêmement brutale, avec des électrochocs, des injections, des coups pour chasser le diable et inhiber le désir sexuel. Nombre d'entre eux sont devenus stériles et porteurs de séquelles à vie en raison de cette torture. Parallèlement, Schäfer abusait sexuellement de presque tous les garçons et jeunes hommes, tandis que les filles subissaient des violences de la part d'hommes de son entourage proche. Schäfer et les cadres dirigeants ont instauré un climat de méfiance entre les colons et créé un système de dénonciation interne Chacun devait se confesser quotidiennement au tio permanente, l'oncle permanent, comme on l'appelait, Schaeffer. Toute infraction à la discipline imposée était sanctionnée par des humiliations devant le reste du groupe, par des coups, par des passages à tabac collectifs, l'enfermement, des électrochocs et l'administration de psychotropes. Les personnes réussissant à s'évader étaient ramenées de force à la colonie par des équipes de recherche et y subissaient de sévères châtiments. Seuls quelques-uns parviennent à s'enfuir définitivement, le cas le plus célèbre étant celui du jeune Wolfgang Müller qui s'évade en 1966. Les traîtres sont présentés comme des malades, bon, les traîtres, entre guillemets, sont présentés comme des malades mentaux. Les ennemis externes sont traînés en justice pour injures et diffamation. L'ambassade d'Allemagne prend connaissance des agissements de la colonie, mais n'intervient pas de façon décisive. Alors, quelle est la relation avec les organes répressifs de la dictature? La relation des cadres de Colonia Dignidad avec leur environnement chilien est marquée par un schéma. Stratégiquement, ils choisissent des personnes influentes auxquelles ils envoient des cadeaux et qu'ils invitent au domaine pour des repas et des vacances. Parmi les convives figurent des juges, des militaires, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires des douanes, des diplomates et des hommes politiques de tous bords, y compris les autorités locales. De l'autre côté, ils portent atteinte à la réputation des personnes considérées comme ennemies au moyen de menaces, d'intimidations, de rumeurs, de poursuites judiciaires et d'agressions physiques. Ils mènent une activité de renseignement, recueillant méticuleusement des informations sur amis et ennemis, puis se servent de ces données pour faire pression sur les deux groupes. Grâce à cela, ils influencent des juges en leur faveur et obtiennent la protection de la police locale. En 1968, ils parviennent même à faire blanchir les colons mis en cause pour diverses irrégularités par une commission d'enquête de la Chambre. L'idéologie de Schaeffer était marquée par un anticommunisme viscéral. La victoire électorale de Salvador Allende en 1970 suscite chez les colons une vive inquiétude. Ils renforcent leurs contacts et alliances avec des latifondistes, les grands propriétaires terriens, des politiciens de droite et des militaires putschistes. Ils sont étroitement liés à Patria Libertà, un groupe d'extrême droite, et au milieu nazi des Allemands qui résident au Chili. La colonia participe à des actions de sabotage et de violence contre le gouvernement de l'unité populaire et collabore activement aux préparatifs du coup d'État en 1973. On sait aujourd'hui qu'elle a importé des armes d'Allemagne pour armer l'enclave avant le soulèvement militaire. Après le 11 septembre 1973, les colons allemands participent activement à l'arrestation de personnes. Les détenus sont transférés à Colonia Dignidad, où ils sont interrogés, torturés et beaucoup d'entre eux assassinés. Les liens avec Manuel Contreras, chef de la direction de l'intelligence nationale, la DINA, la police secrète de Pinochet, avec Pedro Espinosa, responsable de la brigade d'intelligence métropolitaine, ainsi qu'avec d'autres agents de la DINA et officiers militaires, dataient déjà d'avant le 11 septembre. La DINA organise des stages d'instruction en matière de renseignement à Colonia Dignidad. Celle-ci lui fournit armement et informations et participe à la torture, ainsi qu'à l'extermination des prisonniers. Il arrivait fréquemment que des détenus soient transférés depuis d'autres centres de torture et d'extermination de la DINA vers Colonia Dignidad pour que les Allemands leur extorquent des informations. Certains agents de la DINA y sont détachés pour de longues périodes. Dans le cadre des investigations judiciaires menées à Colonia Dignidad, des sites ont été mis au jour où se trouvaient des fosses communes destiné à enterrer des prisonniers exécutés après le 11 septembre 73. On a également découvert des pièces de véhicules enterrés, appartenant des voitures appartenant à des personnes enlevées. et qu'on a fait disparaître. Lors de déclaration devant le juge Cepeda, alors en charge des instructions judiciaires en relation avec la colonie, des colons ont reconnu avoir conduit des dizaines de prisonniers dans une forêt du domaine, puis entendu des rafales d'armes automatiques. D'autres témoignages rapportent qu'en 1978, dans le cadre de l'opération retrait de téléviseurs, telle que l'appelait Nadine, Paul Scheffer ordonna de déterrer les restes des personnes assassinées et de brûler leurs corps afin qu'aucune trace ne subsiste, avant de jeter leurs cendres dans la rivière adjacente, Rio Pequilauquen, la rivière Pequilauquen. Une autre tuerie de détenus politiques aurait été perpétrée à la fin 73 et en mars 74 à proximité de Colonia Dignidad, dans un lieu connu sous le nom de Cerro Gallo. Un grand nombre de militaires accompagnés de colons de l'enclave, revêtus d'uniformes militaires, sont partis de Colonia Dignidad dans le cadre d'une prétendue opération de recherche de guerrilleros, qui aurait en réalité été un massacre de prisonniers politiques. Le général Pinochet lui-même a visité Colonia Dignidad officiellement en août 1974, où on lui a présenté des armes produites sur place. De nombreux indices permettent de supposer que Colonia Dignidad a aidé la dictature à se procurer des armements. Le trafiquant d'armes Gerhard Mertins, ancien officier de l'armée nazie et ensuite agent du service secret fédéral allemand, la BND, aurait très probablement joué un rôle central dans ces transactions, en trafiquant des armes allemandes vers l'Amérique latine et le reste du monde. Par ailleurs, plusieurs éléments suggèrent un rôle actif de Colonia Dignidad dans le projet Andrea, un programme secret de la dictature destiné à produire rien moins que du gaz sarin et d'autres substances chimiques et bactériologiques pour éliminer les opposants au régime. Les agents Michael Townley et Eugenio Berríos, tous deux impliqués dans des assassinats de dirigeants importants de l'opposition au Chili et à l'étranger, ont séjourné à la Colonia Dignidad. L'existence d'un camp de torture à la Colonia Dignidad a été révélée par des rapports de l'ONU en 1976 et massivement dénoncée par Amnesty International et le magazine Stern en Allemagne en 1977. Ces dénonciations s'appuient notamment sur les témoignages de survivants de la Colonia Dignidad, Eric Soth, Louis Peebles, mon papa. Adriana Borges et Ivan Treskov. Cependant, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne de l'époque, Erich Stretling, dément alors publiquement ces informations et témoigne sa solidarité envers Colonia Dignidad. Ce n'est qu'à la fin des années 80 que l'ambassade d'Allemagne commence à se distancier de Colonia Dignidad et communique vouloir éclaircir les crimes commis sur place, mais rien de consistant n'est réellement fait. Avec le retour de la démocratie au Chili en 1990, on espérait que Colonia Dignidad soit rapidement démantelée. Ça paraissait logique. Cependant, celle-ci s'est préparée à la nouvelle ère en créant un réseau complexe de sociétés anonymes fermées auxquelles elle a transféré ses terrains, ses entreprises et ses biens. Ainsi, le décret du gouvernement d'Elwin annulant la personnalité juridique de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, le nom officiel de Colonia Dignidad, en janvier 1991, n'a eu aucun effet en pratique. Colonia Dignidad continuera de fonctionner comme un État dans l'État et de commettre des crimes pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'en 1997, sous la forte pression policière liée aux accusations de pédocriminalité contre des enfants et des jeunes Chiliens, que Paul Scheffer prend la décision de passer à la clandestinité et de fuir en Argentine, où il sera arrêté 8 ans plus tard, en 2005. Alors, quelle est la réaction de la justice chilienne au crime de Colonia Dignidad? Je citerai quelques-uns des crimes commis à Colonia Dignidad, pour la grande majorité desquels il n'y a pas eu de justice et dont les auteurs restent dans l'impunité la plus totale. Enlèvement, torture, assassinat et disparition d'opposants à la dictature. Enterrement illégal et exhumation de leurs dépouilles pour les faire disparaître définitivement. Association illicite, fabrication de trafic d'armes, trafic de drogue. Production d'armes biologiques et chimiques. Appropriation d'enfants, pédocriminalité, médication abusive, électrochoc, maltraitance de ses propres habitants, ainsi que la soumission à un système d'esclavage interne. Tout ce que nous avons réussi à connaître et à comprendre sur Colonia Dignidad est encore insuffisant, car il s'agit d'un cas d'articulation criminelle qui dépasse les frontières du Chili. En 1991, la Commission nationale de vérité et de réconciliation conclut dans le rapport Rettig qu'il est établi qu'il existait des relations entre la DINA et Colonia Dignidad. On sait aussi que le directeur de la DINA se rendait régulièrement dans l'enclave et entretenait des relations étroites avec ses dirigeants. La Commission Rettig a également reçu des dénonciations spécifiques concernant des détenus disparus dont la trace aurait définitivement disparu à Colonia Dignidad. Ce n'est qu'après l'arrestation de Pinochet en 1998 et, de manière plus étendue, suite à l'arrestation de Paul Schaeffer en 2005, que la justice chilienne entame de nouvelles enquêtes pénales sur Colonia Dignidad. Le procès pour abus sexuels sur des enfants et des adolescents chiliens a abouti à la condamnation et à des peines de prison de Paul Schaeffer et d'autres personnes de la Colonia Dignidad. Plusieurs autres procès relatifs à des violations de droits fondamentaux commises pendant la dictature, avec la participation de colons, ont abouti à la condamnation d'un très petit nombre d'entre eux, à des remises de peine ou à des réductions de peine, tandis que d'autres ont échappé à la justice et vivent en Allemagne, aujourd'hui, dans l'impunité la plus totale. Quelles sont les relations de la justice allemande avec les crimes de Colonia Dignidad maintenant? On peut dire que la justice allemande a été encore plus efficace, encore plus inefficace pour mettre fin aux crimes de Colonia Dignidad et pour éclaircir les violations des droits humains qui ont été commises. Fait notoire, suite aux dénonciations faites en 1976 devant l'ONU par des personnes torturées à Colonia Dignidad et à la publication de ces informations par Amnesty en 1977. Ce n'est pas la justice pénale allemande qui lance des enquêtes, mais Colonia Dignidad qui dépose plainte au civil pour injures et diffamation contre Amnesty et Stern. Mon père, que j'ai vu partir à Bonn et à Genève parfois, à Bonn pour témoigner de nombreuses reprises, racontait que ce procès avait coûté si cher qu'il avait failli mettre Amnesty International Allemagne en faillite. En 1985, après l'évasion de deux couples de Colonia Dignidad, ayant relaté leurs expériences au ministère allemand des Affaires étrangères, le parquet de Bonn ouvre une enquête pénale contre Paul Schaeffer, puis l'étend à Hartmut Hopp, Gisela Seewald et Hugo Barr, tous trois de l'équipe de Schaeffer. Cependant, cette enquête, durant laquelle des centaines de témoins sont entendus et plusieurs commissions rogatoires sont adressées à la justice chilienne, n'aboutit à aucune mise en accusation ni à l'ouverture d'un procès. Après 25 ans d'investigation infructueuse, le parquet de Bonn classe l'affaire en septembre 2010. Ce n'est qu'avec la fuite de Hartmut Hopp, arrivé en Allemagne en mai 2011 pour échapper à sa responsabilité pénale au Chili, que la justice allemande se saisit à nouveau du dossier Colonia Dignidad. Suite à la demande de la justice chilienne, le parquet de Krefeld, où vit Hartmut Hopp en Allemagne, ouvre des investigations à son encontre. Mais en 2019, il est définitivement acquitté et continue de vivre en Allemagne en toute impunité. plusieurs autres auteurs de crimes contre l'humanité recherchés par la justice chilienne, tels que Hans-Jürgen Riesland, Reinhard Döring, Lili Schreiber, Ernst Schreiber et d'autres encore, vivent aujourd'hui impunément en Allemagne, la justice allemande n'enquêtant pas sur leur responsabilité dans les graves crimes perpétrés à Colonia de Nila. Bien qu'ils fassent l'objet de mandats d'arrêt internationaux via Interpol, l'Allemagne ne les extrade pas, car sa constitution interdit l'extradition de ses citoyens. Jusqu'à présent, cet aspect bilatéral du dossier Colonel Gnilad a représenté pour de nombreux colons criminels un véritable bouclier d'impunité. La justice allemande, et en particulier le parquet de Bonn, pour des raisons qui restent inexpliquées, n'a jamais retenu d'accusation contre Paul Schäfer, ni contre aucun dirigeant de Colonel Gnilad. Pendant les années les plus sombres de la répression, l'ambassade d'Allemagne à Santiago entretenait des relations tout à fait cordiales avec la direction de Colonel Gnilad et prenait publiquement sa défense lors des premières dénonciations de torture. Plutôt que de soutenir les fugitifs ou ceux adressant des appels à l'aide, elle facilitait le contrôle et l'isolement des colons ordinaires. Par exemple, les renouvellements de passeports étaient traités en bloc par les responsables de la colonie sans que les intéressés n'aient à se présenter. Il en allait de même pour les pensions. Plutôt que d'être versées à leurs bénéficiaires, elles étaient directement créditées sur les comptes de Paul Schäfer et de ses proches collaborateurs. La succursale allemande de la Colonia Dignidad, la Private Social Mission EV à Siegburg, qui pendant des décennies bénéficiait d'avantages fiscaux en tant qu'association à but non lucratif, envoyait régulièrement de l'argent et des marchandises au Chili et coordonnait le soutien à la Colonia Dignidad en Allemagne. Des témoignages affirment qu'elle a également servi à expédier des armes vers le Chili. Le trafiquant d'armes Gerhard Mertins rendait fréquemment visite à Colonia Dignidad et faisait des rapports sur celle-ci au service secret allemand, la BND. Le criminel nazi Walter Rauf, dont il est établi qu'il est l'inventeur des chambres à gaz mobiles, a aussi été un agent de la BND et a travaillé pour la DINA et Colonia Dignidad, mettant en œuvre des techniques d'extermination spécifiques et de disparition de prisonniers politiques. À ce jour, le gouvernement allemand refuse aux chercheurs l'accès aux documents du BND relatifs à Colonia Dignidad. Tous ces faits, qui ne couvrent qu'une fraction d'un sujet beaucoup plus vaste, démontrent que le comportement de l'État allemand face à Colonia Dignidad a été radicalement opposé au discours pro-droits humains que le gouvernement allemand met en avant depuis des décennies. Je vais vous présenter brièvement le travail de notre association pour la mémoire et les droits humains Colonia Dignidad, et ça vous donnera aussi un aperçu de l'association. Mais... mais aussi l'idée d'un travail qui incombe en principe aux États pour protéger ses citoyens, mais qui a été accompli par une organisation, des organisations de la société civile. Notre travail est le reflet de ce que de nombreuses associations de victimes de Colonia Dignidad ont fait jusqu'à aujourd'hui. Notre association a 11 ans et se compose d'un groupe de survivants du terrorisme d'État perpétré par la dictature chilienne en collaboration avec la Colonia Dignidad, de parents et de camarades et d'amis de victimes, d'avocats et de professionnels qui, suivant la voie ouverte par de nombreuses organisations au Chili, travaillant autour des lieux de mémoire, assument le devoir de rechercher la vérité, la justice et la mémoire pour l'ensemble de la société. Notre mission est avant tout éthique et politique, car elle vise à confirmer l'engagement sans réserve que la société doit manifester dans la lutte contre l'impunité et pour la consécration des droits humains. L'Association pour la mémoire et les droits humains colonialisés est donc née en 2014, après plus d'un an de travaux d'un comité sur colonialisés formé par des représentants de plusieurs lieux de mémoire, avec deux objectifs principaux. Le premier, de récupérer et de diffuser la mémoire historique du lieu, mettre en valeur la mémoire des victimes. Et pour ce premier objectif, nous avons développé différentes actions, des activités commémoratives à Colonel-Inland même, au moins deux fois par an. La prochaine visite a d'ailleurs lieu, que nous organisons, a d'ailleurs lieu maintenant dimanche, le 25 mai, à l'occasion au Chili, de ce qui est au Chili, la journée des patrimoines. La première fois que l'association est entrée dans l'enceinte de Colonel-Inland en tant que groupe de citoyens organisés, c'était en 2013. Après un rassemblement devant le portail d'entrée, l'association a accompagné Heraclio, le frère de notre camarade Hernán Sarmiento Sabater, détenu disparu. Malgré les barrières qui ferment l'accès, il a franchi l'entrée et a parcouru les plus de 2 km suivis par des carabineros, des policiers chargés de la sécurité du site, jusqu'à l'hôtel où il a déployé une banderole portant la photo de son frère. Depuis cette première action, chaque année, nous organisons des événements en hommage à nos camarades en septembre, puis après la déclaration du site comme monument national en 2016, nous le faisons aussi en mai, à l'occasion de la journée du patrimoine. Les visites permettent à un nombre croissant de personnes de se rendre sur place, de découvrir le lieu et de bénéficier de nos explications. L'association a également développé un site web. Nous avons créé une exposition itinérante sur l'histoire de Colonel-Inland et de ses victimes destinée à être présentée dans des écoles et des espaces culturels. En 2016, l'association a demandé la classification en monument national des lieux à l'intérieur de la colonie, là où les crimes ont été commis. Et c'est cette déclaration qui définit aujourd'hui les espaces devant être expropriés au sein de Colonel-Inland. Toujours en 2016, nous avons sollicité la déclaration de monument national pour les archives de Colonel-Inland, qui comprennent des documents saisis en l'an 2000 et en 2005, dans le cadre de l'enquête judiciaire sur les personnes disparues à la colonne. Les dossiers saisis en 2005 renferment plus de 46 000 fiches d'informations concernant non seulement les opposants à la dictature, mais aussi toutes sortes d'autorités et même leurs collaborateurs les plus proches. C'est pourquoi nous qualifions cet ensemble d'archives d'intelligence et de contre-intelligence. Nous avons travaillé main dans la main avec les archives nationales du Chili pour que ces documents soient transférés et rendus accessibles au public, où ils peuvent être consultés depuis 2019. Nous avons aussi organisé 7 séminaires internationaux portant sur divers thèmes liés à la mémoire, à la vérité, à la justice, avec la participation d'experts internationaux, d'experts nationaux aussi, d'avocats, de familles de victimes de la Colonel-Inland. Les présentations des premiers séminaires ont été publiées par notre association aux éditions El Desconcierto au Chili. Le 26 octobre 2018, nous avons mis en place la première archive orale sur Colonel-Inland en collaboration avec la Faculté des sciences sociales de l'Institut de communication et d'image de l'Université du Chili. Il contient des entretiens avec des survivants, des familles et des avocats spécialisés en droits humains. Ces archives sont consultables dans le fond des archives orales de la Villa Grimaldi, un camp de concentration et de torture et de mort à Santiago, premier lieu récupéré comme site de mémoire en 1994. Nous avons aussi le lancement d'une table de travail qui a convoqué toutes les organisations liées à Colonel-Inland sous la coordination de la chaire des droits humains de l'Université du Chili, aboutissant à un document adressé aux autorités contenant des propositions de travail conjoint de la société civile pour progresser en matière de vérité, de justice, de réparation et de garantie de non-répétition. Nous avons aussi, évidemment, émis de nombreux communiqués, déclarations et rencontres avec la presse pour dénoncer la situation et porter la question de colonialisme à la connaissance du public. Par exemple, en février 2016, lors d'une réunion à Berlin avec la direction actuelle de la colonie, avec les gérants, aujourd'hui, les gérants des sociétés propriétaires des terres et des entreprises de colonialisme. Ceux-ci cherchaient en même temps au Chili, donc les propriétaires de colonialisme cherchaient à ce moment-là, pendant qu'on était en réunion à Berlin, ils cherchaient à acter les mémoires et les images des habitants actuels en échange de l'usage d'un terrain. Des rencontres avec des représentants du gouvernement, du Parlement et de la société civile au Chili ont aussi été organisées, des échanges internationaux avec des autorités, des organisations de défense des droits humains. Et enfin, l'association est membre de la Red Nacional de Sitios de Memoria, de la Coalition internationale de Sitios de Conciencia et du réseau de sites de conscience d'Amérique latine et des Caraïbes, FESLAC. Concernant le deuxième objectif, principal de l'association, il s'agit de contribuer à la clarification des crimes commis à Colonia Dignidad, ce qui est encore nécessaire aujourd'hui. En juillet 2014, peu après la création de notre association, aux côtés de Londres 38, Espacio de Memorias, et de la corporation Parque por la Paz Villa Grimaldi, nous sommes devenus partie civile dans la plainte pour enlèvement et disparition forcée de l'étudiant en médecine Álvaro Vallejos Villagrán, détenu à Londres 38, donc un centre de torture, puis à Cuatro Álamos avant d'être emmené à disparaître à Colonia Dignidad. Depuis lors, nous avons mis en place un processus de recherche piloté par nos membres avec l'appui de professionnels de l'Université du Chili. Nous avons analysé une part importante des archives de la Colonia Dignidad, ce qui nous a permis de déposer une plainte pour opération d'extermination sur le site. Celle-ci en est aujourd'hui au stade de l'enquête, conduite par la juge d'instruction Paola Plaza. Ce dossier regroupe deux autres plaintes, l'une pour inhumation et exhumation illégale relevant du programme des droits humains et l'autre pour disparition forcée de prisonniers de Londres 38. En 2018, nous avons déposé plainte contre le médecin Otto Dorr, complice et ami de Colonia Dignidad, devant le tribunal d'éthique de l'Ordre des médecins du Chili, contestant l'attribution du prix national de médecine à ce monsieur. Nous travaillons actuellement aussi de manière intensive à la recherche de témoins et au suivi des investigations à l'intérieur de Colonia, ainsi qu'à la préparation des expertises sur les sites des fosses communes où les corps ont été inhumés, exhumés, brûlés et que des personnes ont définitivement fait disparaître. Dans cette tâche, nous maintenons une collaboration étroite avec le plan national de recherche et les tribunaux qui ont qualifié le lieu comme lieu de recherche prioritaire. Je passe maintenant à la toute dernière partie, les enjeux actuels. En août 2024, la juge d'instruction Paola Plaza a permis de mettre au jour un premier bunker, jusque-là inconnu de la justice. Ces dernières années, la juge d'instruction Plaza a mené de nombreuses enquêtes sur le terrain à la recherche des lieux d'inhumation des corps, suite aux déclarations des colons eux-mêmes. Fin janvier 2025, la juge d'instruction Paola Plaza a également identifié l'édifice abritant le quartier central de la Dina à Colonia Dignidad. Cette structure, que les colons nomment Hildegard-Halle, correspond précisément aux descriptions fournies par mon père, survivant des tortures subies en février 1975, dès 1976. L'identification des lieux a été validée grâce au témoignage d'un camarade de mon père, également rescapé des lieux en même temps que lui. Mon père est décédé le 29 janvier 2025, la veille de cette identification judiciaire. Étant au Chili pour ses funérailles, j'ai pu aller pour la première fois à Colonia Dignidad. J'ai demandé la permission à la juge d'instruction et je me suis rendue sur le site le 7 février en compagnie du camarade de mon père torturé à ses côtés, tout juste 50 ans auparavant. Cet édifice, l'île de Gartal, ne semble pas actuellement utilisé, mais en relatif bon état. Les pièces visibles depuis les portes vitrées sont encombrées de débris de construction et de détritus, les rendant inaccessibles. Je dois vous préciser que c'est une des habitantes du lieu qui vit là depuis qu'elle a 2 ans en 1961, qui nous a montré et expliqué les lieux et sa vie pendant 4 heures de visite guidée. J'ai été impressionnée par le fait qu'ils aient toujours les clés et qu'ils peuvent détruire les traces à tout moment, ce qu'ils ont de toute évidence fait pendant de très nombreuses années. Le 1er juin 2024, lors de la présentation des comptes publics annuels, le président du Chili, Gabriel Boric, a annoncé l'expropriation de terrains appartenant à la colonia Trinidad. Une des raisons pour laquelle colonia Trinidad n'a pas encore été transformée en site de mémoire est qu'il s'agit d'une propriété privée, contrôlée par diverses entreprises commerciales, dans laquelle résident encore plusieurs membres du groupe arrivés au Chili au début des années 60. Ils ont opposé une résistance et ils opposent une résistance totale à quitter les lieux. Le manque de volonté politique, de fermeté à intervenir dans cette colonie est devenu évident avec l'évasion de Paul Schaeffer vers l'Argentine et l'attitude adoptée par les deux États dans les années 2000, lorsqu'ils ont dû commencer à réfléchir à la manière de traiter les différents crimes qui se produisaient dans l'enclave. À l'époque, la préférence allait au soutien de la colonie et de ses propriétaires par le biais de divers programmes de coopération allemands et de plans de soutien de l'État chilien. C'est ainsi qu'en 2014, nous avons constitué notre association pour commencer à exiger que parallèlement à la lutte historique pour la vérité et la justice que les associations de familles de victimes ont développées, des mesures concrètes soient prises pour protéger les lieux, pour rendre visibles ces crimes et pour développer un travail de mémoire. Cependant, le Chili et l'Allemagne ont décidé de répondre par des mesures visant à fermer et à contrôler un processus de commémoration qui devrait être ouvert et transparent pour la société chilienne et les différentes personnes affectées par les crimes commis. À ce stade, il semble que l'Allemagne applique une politique de limitation des dégâts contrôlés depuis ce pays. Après la présentation du film « Colonia » de Florian Gallenberger en 2016 avec l'actrice Emma Watson et l'acteur Daniel Brühl, film qui provoqua une vive émotion en Allemagne, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Frank-Walter Steinmeier, organisa une réunion et présenta des excuses aux victimes. Un acte symbolique important. Dans son discours, il compara Colonia Dignidad au camp de concentration de Theresienstadt. Quelques mois plus tard, une commission de parlementaires allemands visita l'ex-Colonia Dignidad, ce qui déboucha en juin 2017 sur une motion parlementaire adoptée à l'unanimité par le Bundestag. En réponse, le gouvernement allemand proposa à la République du Chili un « Memorandum of Understanding » en 4 points, prévoyant la création d'une commission mixte chileno-allemande chargée d'aborder la mémoire historique de la colonialidad et l'intégration des victimes dans la société. Malheureusement, le travail de mémoire et de justice n'a pas été exempt de difficultés depuis la mise en place de cette commission mixte, et nous avons rencontré de nombreux obstacles à l'avancement de nos objectifs. Bien que certaines de la commission coïncident avec les exigences de vérité, de justice et de mémoire, nous avons très peu pu connaître de son travail. À la demande expresse de la partie allemande, les procès-verbaux des 9 premières séances de la commission, ainsi que les rapports et les délivrables issus de son travail ont été tenus secrets pour la société chilienne, et cela avec l'aval de l'État chilien. Il est inacceptable qu'un État étranger décide de ce que nous devons savoir et de la manière dont nous devons commémorer un lieu où des crimes contre l'humanité ont été commis pendant la dictature civilo-militaire. Depuis le lancement des travaux, la commission mixte, appuyée par une équipe de professionnels allemands et chiliens, a promu une narration disculpatoire des habitants de l'enclave quant aux violations des droits humains auxquelles ils ont participé ou dont ils ont eu connaissance. Ce narratif s'appuie sur la présentation d'un système de contrôle social total existant à la colonie. Il est probable que cet angle serve davantage les intérêts de l'État allemand, désireux de ne pas rouvrir les plaies du passé, d'un passé criminel dans lequel il est impliqué, que les droits fondamentaux. En tant qu'association, nous affirmons que c'est l'État chilien qui doit rendre des comptes pour les crimes contre l'humanité commis par ses agents, civils ou militaires, et non une commission mixte qui, de plus, à ce jour, n'a pas démontré de résultats en matière de vérité, de justice et de mémoire. C'est avant tout à l'État chilien qu'il appartient de répondre des crimes de cette nature perpétrés au sein de l'enclave allemande, conformément aux obligations qu'il a souscrites librement et ratifié en vertu des normes internationales relatives aux droits humains. En ce sens, nous saluons avec gratitude la décision du président de la République du Chili, Gabriel Boric, d'exproprier une partie du terrain de colonialisme en vue de développer un site de mémoire. Nous y voyons un acquis des luttes que les organisations de victimes et de défenseurs des droits fondamentaux mènent depuis des années pour exiger la récupération et l'ouverture de ce lieu de mémoire. Nous considérons qu'il s'agit d'une avancée majeure, marquant un tournant dans l'ouverture d'un espace jusqu'alors privé et fermé, symbole du terrorisme d'État. Cette ouverture devrait également favoriser les progrès en matière de vérité et de justice. Nous sommes conscients, et j'en termine, que ce processus ne se déroulera pas sans obstacles, tout comme lors de la déclaration de Colón Hereñidad comme monument national, quand les propriétaires ont développé toutes sortes d'actions pour empêcher cette décision. Néanmoins, cette mesure de justice et de réparation doit impérativement être mise en œuvre. C'est l'exigence pressante des victimes et des organisations de défense des droits humains qui demandent également transparence et participation effective à toutes les étapes de l'expropriation et de construction de la mémoire historique du lieu. Il convient de souligner que ces organisations possèdent une vaste expérience dans la reconversion d'anciens sites de détention, de torture et d'extermination en lieu de mémoire ouvert à l'ensemble de la population afin de promouvoir les droits humains et de les faire respecter en fin de compte. Je termine par une dernière diapositive que vous voyez là. Nous venons de lancer avec l'association une pétition pour encourager l'expropriation de Colón Hereñidad et demander aussi que les associations de victimes et les associations de défense des droits humains soient impliquées dans le processus dès maintenant et pendant toute la construction du site de mémoire. Du développement du site comme lieu de mémoire, comme site de mémoire. Merci pour votre attention.
J'invite donc Della Citroni, Margarita Romero et Paola Febles à s'installer sur la table pour qu'on passe autour des questions. Je demande aussi à Pancho et puis à Cecilia si vous pouvez prendre les micros. Oui. Ah, dis-moi. Nous avons eu une présentation très claire, très documentée, mais aussi chargée d'émotions et de volonté de justice. La question de l'impunité au Chili et dans d'autres régions du monde nous interroge, notamment sur le rôle du système international des droits humains et sur le rôle des États dans la protection des droits humains. Nous avons eu une présentation très pertinente sur cette question par Gabriella Citroni, qui sans aucun doute doit être confrontée dans ses travaux et auditions à la frustration des victimes, des familles et de la jeunesse aujourd'hui, qui est très consciente et mobilisée sur ces questions. Le cas de Colonel Dignidad nous confronte à l'impunité de manière tangible, en lien avec l'intervention de deux États, l'allemand et le chilien, ainsi que des acteurs non étatiques comme les propriétaires actuels de Colonia Dignidad. Margarita Romero et Paola Pebles auront l'occasion donc, dans ce tour de questions, de répondre aussi à vos éventuelles interrogations. On va devoir faire, je pense, à cause du retard que nous avons pris, juste un tour de questions. Donc, si vous voulez poser une question, posez-la dans ce tour-là. Et puis ensuite, on donnera la parole à chacune des intervenantes pour un mot des réponses et un mot de conclusion. Donc, si vous avez. Oui, alors attendez juste d'avoir le micro, parce que comme il y a un enregistrement, c'est mieux. Et puis attendez bien que le micro soit actif pour pouvoir poser votre question.
Cette question s'adresse à Gabriela Citroni. Je suis titulaire et je travaille avec vous ici sur les disparitions forcées sur Wikipédia et on a longuement débattu dans une séance sur le fait est-ce qu'il fallait considérer les disparitions qui ont lieu au sein de la mafia en Italie comme des disparitions forcées ou non. Lorsque vous avez votre définition sur les groupes, l'intentionnalité de se faire à l'autre. Je vois là, je sais que les situations forcées, vous parlez un peu plus, c'est ça? Après, est-ce que ça rentre là-dedans?
Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Levez la main. Jen.
J'ai dit en français ou en
En français, en tout cas, c'est mieux.
suis italien au temple. Et ça m'intéresse beaucoup, toujours le côté italien, parce que en Italie, après la condamnation du massacre allemand, ce que moi j'appelle avant la mort, et à Sandra, et ils sont arrivés en Allemagne, et ils se sont sauvés, ils sont morts dans leur vie en Allemagne. Donc l'Allemagne, elle a récupéré la même chose que 30 ans avant, elle avait fait. Elle soutient toujours cet optionnaire qui a fait des massacres des milliers de personnes. Donc c'est typique de la République fédérale allemande, bien démocratique, naturellement.
Si, une autre question, alors voilà, derrière.
Oui, bonsoir. Une question un peu spéciale à vous poser, j'ai un problème réalisatif. D'après les définitions que vous avez données, en premier, il n'y a que l'État qui peut être responsable pour ces drames, ces fraudes. Il n'y a que l'État qui peut être responsable de ces agressions. La troisième définition, à côté du droit normatif, j'ai un peu senti que c'est le monde réalisatif, mais si on est responsable de la sécurité européenne, l'immense majorité des agressions sont un peu mafieux, etc. Ça veut dire que la juridiction internationale ne les apporte les marques d'une situation. C'est une rareté. Merci.
D'autres questions, peut-être sur Colonia Dignidad? Ivan, d'abord, et ensuite.
Mon unique opinion, c'est merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Je suis né en 52. Et puis, je connaissais toutes les histoires par rapport aux Mapuches, les indigènes. Et je me contais que la gente entrava dans le brutal et ne sortait pas. Yo no era solo, éramos muchos. Por eso que estoy aquí enfrente de ustedes y me da mucho orgullo de que ustedes hayan trabajado y tengan testimonios, papeles y todo de los crímenes de lesa humanidad que estaban ocurriendo en Colonia en día.
Merci. Il y a une question là-bas ou pas? Oui, bah vas-y.
Moi, je voulais juste savoir.
Plus fort, plus fort. Plus près, plus près. Plus près.
Ouais. Et jusqu'à maintenant, c'était les familles des personnes disparues qui suivaient les dossiers. J'ai connu une personne de Nivellas. Il a disparu tout au début de la dictature militaire. Lui, il faisait partie de la garde personnelle du président Aliyev. Son père, sa mère et son groupe, donc ils sont toujours battus, partie des associations pour retrouver son fils. Son frère, il est mort les deux années passées, il est mort l'année passée. Donc. Alors, moi, je voudrais savoir qui, s'il y a quelqu'un qui suit des dossiers dont la famille des personnes disparues sont déjà en droit.
Merci. Encore une question à Tinray, et puis après, je pense qu'on va passer aux réponses.
Bonsoir. Je voulais savoir si vous avez cité, j'ai pas cité des noms de précédents à l'époque. Je voulais juste savoir si Mme Bachelet, qui était ici et qui gère une institution de droit de l'homme, je viens d'en parler. Est-ce que vous l'avez impliqué sur ce sujet? Vous avez besoin d'appui, peut-être un appui.
Oui, oui, bien sûr.
La présentation de la madame del consulat de Chili et aussi la dernière présentation de nous, ça me semble que vous avez très, beaucoup de confiance dans la continuité statale de ces politiques. Et je me demande qu'est-ce qui nous pèse, qu'est-ce qui vous donne cette confiance de que ça ne change pas d'un avec les. Et
sur les affaires politiques. Voilà. Je pense. Comment est-ce que vous avez fait? Alors, on va passer du coup aux réponses. J'invite Gabriel Lacetroni d'abord pour répondre aux questions qui lui auraient été adressées. Et puis ensuite, ça sera Margarita Romero et Paola Pérez.
Merci. Donc, je vais mélanger les deux questions parce que finalement, ils ont des points communs. Et je crois que la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend pour la mafia, ça dépend pour les organisations criminelles, les cartels de la drogue, les cartels non étatiques. Donc, la réponse la plus facile, c'est s'ils agissent avec la tolérance et l'acquiescence de l'État, qui est le cas sur certains points. En Italie, au Mexique, dans le El Salvador, en Honduras, on peut parler juridiquement de disparition forcée. S'il y a, si on a les trois éléments, privation de liberté, acquiescement de l'État, et donc un niveau de tolérance pour l'État, et finalement, le troisième élément qui est le manque d'information sur la personne disparue. Le problème, c'est plutôt quand on a pas du tout en lien avec l'État. Et là, on ne parle pas des disparitions forcées. Ça, je ne sais pas comment je veux le traduire en français, parce qu'en anglais, on utilise un terme que c'est horrible aussi en anglais, qui c'est « acts tantamount to enforce disappearance ». Ça, c'est beaucoup pour moi de traduire en italien, en espagnol, en français, je ne sais pas, mais c'est plus ou moins de la même nature que la disparition forcée, mais seulement quand les acteurs non étatiques contrôlent le territoire ou exercent des fonctions de gouvernement. Donc, ce n'est pas les groupes criminels, on pense plutôt à le Daesh, Boko Haram, Bon, les talibans, donc là, c'est un acteur non étatique qui veut faire l'État. Et là, on peut parler des actes de la même nature de disparition forcée. Donc, qu'est-ce qu'on utilise si on a un cartel de la drogue qui travaille sans appui, sans acquiescement de l'État? On parle plutôt d'enlèvement, que c'est toujours un crime, mais on n'utilise pas la disparition forcée. J'espère avoir répondu et d'une façon compréhensible.
Peut-être, je sais, peut-être que tu peux aussi dire un mot, même si aussi par la suite, sur la question, qu'est-ce qui se passe si personne ne réclame par rapport à une disparition forcée, qu'est-ce qu'il en est?
Oui, je vais répondre sur ce qui passe avec les cas qui ont été enregistrés avec le groupe de travail. Ces cas demeurent ouverts. Et les cas, quand même, si la famille est, bon, s'ils sont décédés, s'il n'y a pas de personne, si les cas demeurent ouverts jusqu'à on obtienne une réponse sur le lieu, bon, sur la sorte et le lieu où la personne a été détenue ou a décédé. Donc les cas restent ouverts si la famille, quand même si la famille a disparu. Parce que sinon, ça veut dire que la personne disparaît deux fois. Et donc c'est pour ça que les cas restent ouverts.
Excuse-moi d'insister sur cette question. Ça, c'est pour le groupe de travail que tu présides, les cas restent ouverts. Et il en est quoi pour les gouvernements? Ils ne font pas de mise en accusation d'office ou ça dépend des pays?
Parce que le groupe de travail a un mandat humanitaire. Donc, ce n'est pas une question d'accusation, ce n'est pas plutôt sur la justice, c'est plutôt la vérité. Et c'est justement établir la sorte de la personne disparue. Et donc, les cas-là demeurent ouverts. La question, c'est un peu différente. Et la réponse, je crois, ça changerait dépendant de pays à pays sur la question de justice à niveau national. Et là, donc, je ne peux pas donner une réponse pour tous les pays.
Super. Merci beaucoup. Je invite maintenant Margarita Romero et Paola. Je ne sais pas si vous voulez venir une chacune ou les deux ensemble.
Merci. Je vais essayer de répondre, mais mon français n'est pas le meilleur. Nous avons commencé à travailler en 2014. À ce moment-là, on a eu assez de facilités, en fait, parce que nous venions de travailler dans d'autres centres qui étaient des centres clandestins, des tortures. À Santiago, on avait récupéré pour transformer assez de mémoire.